Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actualité locale sur Radio Saint-Ferréol avec le journal Le Crétois. Aujourd'hui en studio, Brigitte, Thierry et Claire pour vous faire la lecture de trois articles du journal parus ce vendredi. Bonne écoute.
À la maison Boutarin, sur les pas du grand maître japonais de l'ail noir. L'héritier du grand maître japonais de l'ail noir, décédé tragiquement cet été, est venu honorer la promesse de son père en visitant l'exploitation crétoise. C'était une visite attendue de longue date par Fanny et Stéphane Boutarin, producteurs crétois spécialisés dans l'ail noir. Shinichi Kashiwazaki, grand maître japonais de l'ail noir, mets délicieux inventé par les Japonais à la fin du XXe siècle, devait venir sur leur terre à Divageux. Il y a de cela quelques années, le maître les avait lui-même accueillis dans son entreprise familiale installée dans le département d'Aomori, dans la pointe nord de l'île d'Honshu, où est produit 70% de l'ail noir japonais. Nous l'avons rencontré par hasard lors d'un salon en France. Il avait goûté notre ail noir et l'a trouvé suffisamment bon pour nous inviter au Japon, se remémore Fanny. Lors de ce voyage, les deux Français avaient pu visiter sa ferme familiale et recevoir quelques rares mais précieux conseils. C'est dire si son passage était attendu à la maison Boutarin, qui produit depuis 2019 son ail noir à partir de l'ail blanc IGP de la Drôme. Mais voilà, la vie est parfois cruelle, et le grand maître s'en est allé cet été à la suite d'un accident de voiture. Mais avec lui n'est pas parti l'art de l'ail noir japonais. Son fils, Mizuki Kashiwazaki, a repris les rênes de l'entreprise où il peut compter sur le soutien de la fidèle Hiromi Yamamoto, en charge de l'export et au fait des secrets de l'ail noir. Tous deux ont également choisi d'honorer la promesse faite aux époux Boutarin qui ont pu les accueillir le 28 octobre dernier dans leur exploitation. Un moment important auquel était conviée la presse, à qui il fut proposé de goûter l'ail noir drômois et celui du Japon, et de s'adonner aux comparaisons. Ce qui n'était pas chose aisée, car l'ail noir Boutarin ressemble à s'y méprendre à celui en provenance du Japon. Pour respecter la méthode traditionnelle japonaise, Fanny Boutarin utilise des machines cuisant des têtes d'ail blanc selon la méthode de Maillard, soit à faible température pendant 30 jours dans un fort taux d'humidité. L'ail prend alors un aspect bruni à l'extérieur, charbonneux à l'intérieur et se pare d'un goût sucré rappelant le vinaigre balsamique. Ce mode de cuisson a, en outre, l'avantage de permettre de conserver le tubercule tout en décuplant ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le tout offrant une saveur umami, considérée par les Japonais comme la cinquième saveur après le salé, le sucré, l'amer et l'acide.
Subtile différence. Rien d'étonnant en conséquence que cette ail noire ait de plus en plus les faveurs des chefs cuisiniers, au point que les producteurs se multiplient, du Canada à la France. Ainsi, l'ail noir Boutarin est utilisé par le chef Jean-Michel Bardet du restaurant Domaine Le Colombier à Malataverne, une étoile au guide Michelin, mais aussi plus près par le restaurant Le Kléber de Grane, une étoile au guide Michelin également. Hiromi Yamamoto, pilier historique de l'entreprise Kashiwazaki, Seika, délivre vite son verdict. Cet ail est très bon. Les Boutarin ont fait de grands progrès, suscitant l'approbation silencieuse du fils du grand maître. Et ce, bien que le produit ne soit sensiblement pas le même. Ainsi, l'ail japonais a-t-il une tige plus dure, les gousses sont plus symétriques, l'aspect charbonneux plus plein. Au goût aussi, il est différent. Si l'on devine encore le goût de l'ail dans celui des Boutarin, plus long en bouche, précise Fanny, celui venu des terres d'Oamori pourrait être confondu avec une purée fine de prune. Sans la moindre trace en bouche de la saveur si caractéristique du bulbe astringent. Serait-ce l'influence du sol volcanique ou du climat froid en hiver du nord de l'île d'Honshu qui donne à ce condiment un temps oublié de la cuisine japonaise ce goût si particulier ? Fanny Boutarin en est persuadée. Ici, nous avons une terre argileuse, limoneuse, très différente de là-bas. On sent le goût du terroir dans le produit, c'est évident.
Rehausser la cuisine. Pour en avoir le cœur net et aussi échanger entre fermiers, Mizuki Kashiwazaki et Stéphane Boutarin sont allés se balader dans les champs. Le jeune homme taiseux a pu admirer en connaisseur les pousses généreuses d'ail blanc IJP de la Drôme, bien sûr, mais aussi de poireaux perpétuels, d'ail des éléphants, d'ail rose. Car les Boutarins ne produisent pas que de l'ail blanc, mais d'autres variétés de bulbes aromatiques. Avec l'ambition de rehausser la cuisine des chefs, mais aussi de tout à chacun. De quoi parler à l'héritier de l'entreprise Kashiwazaki Saika, produisant plus de 70 variétés sur 10 hectares. Dans le regard du fils, semblable au père, on a pu déceler une fierté de partager cet héritage avec ses deux drômois. Un échange culturel réussi, de quoi ravir les papilles. Un article de Blandine Flipot.
Les braconniers condamnés pour avoir empoisonné un loup à Crupy. 4 prévenus ont été reconnus coupables le 10 octobre par le tribunal de Valence. Le Crétois s'est procuré en exclusivité l'image du délit. L'air endormi. Un loup gît langue pendante, sans trace de balle sur le corps. Cette image que le Crétois a pu obtenir constitue le point de départ d'une histoire qui vient de trouver sa conclusion ce 10 octobre. En mars 2022, 4 randonneurs découvrent ce loup mort aux environs de Crupy. Ce constat d'un délit qui aurait pu rester comme souvent sans suite a rebondi à la suite d'écoutes téléphoniques menées par les gendarmes dans une toute autre affaire où l'un des prévenus s'est vanté d'avoir empoisonné un loup auprès de ses copains. S'en est suivie une enquête menée par les agents de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui vient d'aboutir par la condamnation de 4 prévenus pour destruction illicite d'espèces protégées. Ainsi, le principal suspect, également conseiller municipal et référent du réseau loup-lynx de l'OFB, qu'il avait infiltré pour tuer un loup, a-t-il reconnu, a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de chasser et 5 ans d'interdiction de port d'armes. Cet éleveur, originaire de Crupy, a utilisé du carbofuran comme poison. Un insecticide interdit d'usage depuis plus de 10 ans en France. 2 autres éleveurs, dont un chasseur, qui l'ont aidé à dissimuler le cadavre, ont écopé chacun de 4 mois de prison avec sursis et de 1 000 euros d'amende pour celui qui lui a fourni le poison, dont 500 euros avec sursis pour détention illicite de produits pharmaceutiques non autorisés. À noter, une élue municipale, elle-même identifiée dans les écoutes téléphoniques, a en revanche été relaxée. Le poison tueur aveugle. Les 4 prévenus ont été en outre condamnés à verser solidairement 20 000 euros aux associations de protection de l'environnement qui s'étaient portées partie civile. Parmi elles, l'Association de protection des animaux sauvages, l'ASPA, Féru et France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, dont fait partie Richard Mathieu. Ce dernier déplore l'absence de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, pourtant elle aussi association de protection de l'environnement en tant que partie civile. Et pourtant, insiste-t-il, tuer un loup de manière illégale, c'est déjà un désastre, mais mettre du poison, c'est non seulement des méthodes de lâches, mais cela peut entraîner des empoisonnements en cascade d'autres animaux. C'est totalement irresponsable. Le naturaliste poursuit. L'OFB a pu démanteler et punir un réseau d'empoisonneurs du loup formé par des éleveurs et des chasseurs. Certains éleveurs sont dégoûtés par ces méthodes. Il faut combattre ces réseaux, comme nous soupçonnons qu'il en existe dans le Vercors. Il serait souhaitable que l'OFB se dote d'une brigade anti-braconnage avec des chiens formés à détecter le poison comme il en existe en Italie et en Espagne. Un souhait qui n'a pour l'instant pas trouvé d'écho au gouvernement. Article écrit par Blandine Flippot.
Attention à la financiarisation des terres agricoles par les panneaux solaires. Développer les énergies renouvelables, mais pas à n'importe quel prix. Un sujet abordé lors du dernier conseil communautaire de la CCVD. Parmi les 9 délibérations étudiées lors de la séance du conseil de la communauté des communes du Val-de-Drôme, c'est la CCFD, qui s'est tenue le mardi 22 octobre au campus d'Eure, les élus se sont attardés sur la question des énergies renouvelables. Plus particulièrement, sur les projets potentiels de panneaux photovoltaïques au sol qui, très souvent, grignotent les terres agricoles. En effet, l'Assemblée devait, ce soir-là, se prononcer sur les zones d'accélération d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle les ZAER, définies par les communes en concertation avec leurs habitants, comme le prévoit la loi APER de 2023. L'objectif est d'atteindre les objectifs français en matière de production d'énergie renouvelable et d'inciter les collectivités locales à réserver certaines zones en instituant un bonus sur le tarif d'achat de l'énergie produite.
Plus-value. Sur les 29 communes membres de la CCVD, 18 d'entre elles ont délibéré pour une production totale de 167 gigawatt-heure. Pour l'essentiel, il s'agit de projets de panneaux photovoltaïques sur des parkings couverts ou des toitures de bâtiments, mais aussi d'éoliennes comme à Grane ou de réseaux de chaleur à bois à Montoison. Un quart de ces 167 gigawatt-heure concernent des projets de panneaux photovoltaïques posés au sol. Même si leur examen est à faire au cas par cas, 99,5% sont projetés sur des terres agricoles, ce qui, comme l'a précisé le maire de Montoison et vice-président de la CCVD délégué à la transition écologique, Jean-Marc Bouvier, se heurte aux préconisations du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, un document d'urbanisme en cours de validation. Il dit « Cela pose un petit problème de cohérence. C'est pourquoi il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable sur les zones d'accélération des communes du territoire, hors zones d'accélération photovoltaïque au sol, pour lesquelles la CCVD ne peut émettre d'avis en l'absence de documents cadres de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Un avis qui doit être rendu au préfet avant le 9 janvier 2025. Conseiller départemental et élu à Sceaux, Daniel Gilles, également éleveur, a tenu à émettre un point de vigilance sur le risque de financiarisation des terres agricoles, je le cite. Il a rappelé que la location de terres agricoles variait en moyenne de 80 à 140 euros l'hectare par an. Un prix qu'il a comparé avec un revenu compris entre 4 000 et 12 000 euros l'hectare pour des propriétaires forcément alléchés qui laisseraient s'installer des panneaux solaires sur leurs terres. Je le cite encore une fois. Aujourd'hui, à la suite de plusieurs indivisions, les 2/3 des terres agricoles n'appartiennent plus à des paysans. Une aubaine financière qui pose, selon l'élu, la question de la souveraineté alimentaire et du nombre de terres agricoles cultivables dans 20 ans.
Pression. La Chambre d'agriculture consulte en ce moment les différentes communautés de communes du département avant de trancher sur ce dossier. Et plus globalement, sur celui de l'agrivoltaïsme, où les panneaux solaires couvrent les champs et ne sont pas posés à même le sol. Puis établir un cahier des charges. Selon Daniel Gilles, le premier avis technique se prononcerait contre la photovoltaïque au sol, mais il faut savoir qu'il y a des êtres humains à la Chambre qui subissent des pressions, entre autres de collectivités qui veulent développer ces projets, et les avis tergiversent pour savoir si on ne va pas céder. Sur le fond du dossier, l'exécutif de la CCVD partage la nécessité de réserver le foncier agricole à sa fonction première, la production alimentaire. Nous avons une position critique sur ces panneaux au sol, a déclaré Jean-Marc Bouvier, tout en rappelant que l'intercommunalité ne pouvait officiellement porter d'avis sur la question tant que la Chambre d'agriculture n'avait pas émis ses volontés. Nous avons besoin, certes, de nous chauffer et de nous éclairer, mais nous avons aussi besoin de manger et donc de terres agricoles, a complété Jean Seret, le président de l'intercommunalité. Finalement, la délibération a été adoptée, avec tout de même l'abstention de 13 élus. Un article de Clément Chassot.
Une réplique de la tour en Capla. 4000 pièces ont été nécessaires à sa construction. Il existait déjà les reconstructions de scènes historiques de la tour de Cré en Playmobil. Cette fois, la société Kléber-Roussillon, qui gère le monument en délégation de services publics depuis 2019, a fait réaliser une réplique du plus haut donjon médiéval en France, en Capla. Ces petites planches de bois, commercialisées par une entreprise française du Sud-Ouest, sont très populaires auprès des enfants qui les utilisent pour faire sortir de leur tête tout un tas de constructions imaginaires. Le mardi 23 octobre, un membre du centre d'animation Capla de Lyon s'est donc échiné une bonne partie de la journée à recréer la tour sur une hauteur d'1,10 m grâce à 4000 pièces. Le résultat est bluffant. En parallèle, les enfants, alors en vacances, pouvaient s'essayer à faire de même. La réalisation est actuellement visible au rez-de-chaussée du célèbre donjon. Article écrit par Clément Chassot.
Vous venez d'écouter 4 articles du journal Le Crétois du vendredi 1er novembre. Lus par Thierry, Brigitte et Claire. Fabien était à la technique. Retrouvez l'intégralité de ce numéro chez votre marchand de journaux, sur abonnement ou sur le site le-crétois.fr. À la semaine prochaine.